Il sait pas très bien quoi faire de tout ça, mais il écoute.
La question du travail n'est pas une question classique dans la philosophie, qui préfère des questions plus nobles. La vérité, la pensée, qu'est-ce que la pensée, la liberté, l'égalité, la justice. Sauf dans certains grands mineurs, où il n'y a pas un grand questionnement sur ce qu'est le travail. Et pourtant, dès qu'on s'empare de la question du travail, on fait un vrai exercice philosophique. C'est quelque chose qu'on fait tous. Je crois qu'on fait ça, par exemple, quand on regarde des enfants jouer, des enfants en très bas âge, hein, parce que très vite, ils apprennent ce qu'est le travail. Ils ont une idée de ce qu'est le travail. Mais dans leur premier âge, ils sont tout à fait étrangers à cette idée du travail. Et on peut vivre soi-même qu'un sentiment d'extrême étrangeté qui nous remet véritablement en question quand on observe les enfants et qu'on voit qu'on ne comprend pas quelque part la nature de leur activité. Ils sont actifs, mais ils sont pris dans un type d'activité qui n'a rien à voir avec le travail. Et ce moment-là, qui nous décentre tout à fait par rapport à nos habitudes, par rapport justement à cette valeur du travail qui nous habite, c'est un exercice Alors c'est cette même bizarrerie, ce même sentiment d'étrangeté qui, par exemple, mobilise les anthropologues quand ils essayent de comprendre des sociétés dites primitives, hein, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, par exemple des sociétés de chasseurs-cueilleurs, dont le rythme n'est pas du tout défini et dont l'organisation, parce qu'ils ont une organisation, hein, mais c'est une organisation qui ne dépend pas de ce que nous appelons le travail. Et tout le travail de l'anthropologue, alors, est de tenter de comprendre ce type d'organisation et en même temps de voir qu'elle lui échappe fondamentalement parce que justement, on ne peut pas se référer à cette valeur travail qu'on a entièrement acquise, qui est entièrement ancrée en nous, avec parfois des questionnements qui peuvent paraître un peu vains dans le chef des anthropologues qui vont se demander, est-ce que des sociétés comme celle-là parviennent à connaître le bonheur ou l'abondance avec une moindre activité que la nôtre? Et alors se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que cette activité de ces hommes et de ces femmes des sociétés primitives, des chasseurs-cueilleurs. Est-ce que quand ils allument le feu, ils travaillent ou pas? Est-ce que quand ils construisent une tente, s'ils sont nomades, ils travaillent ou pas? Et apparaît là vraiment un sentiment d'étrangeté qui est proprement philosophique à mes yeux et qui consiste tout simplement à se déprendre, à se défaire ou à se décentrer par rapport à quelque chose qui est tout à fait ancré en nous et qui est justement cette question du travail qui apparaît comme n'étant pas naturelle, hein, comme n'étant pas inscrite dans la nature de l'homme, mais comme étant bel et bien le fruit d'une construction sociale, le fruit d'une construction politique. Alors plutôt que de se questionner sur le fait de savoir est-ce que le travail est naturel, est-ce qu'il définit l'homme ou est-ce qu'il est une construction sociale, il me semble que l'intérêt, comme philosophe pour moi, et de me demander comment le travail est rentré dans le discours philosophique et comment est-ce qu'il est devenu et à quel titre est-il devenu une valeur et de quelle manière. Alors, il me semble que le moment où le travail est devenu véritablement une valeur constitutive de la vie en société, c'est sans doute à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, hein, au début de la modernité, pourrait-on dire, c'est-à-dire avec la naissance du capitalisme, bien entendu, mais avec la naissance de l'État aussi. Et pourquoi est-ce fondamentalement lié à la naissance de l'État? Dans la mesure, j'y reviendrai après, dans la mesure où le travail est tout simplement un facteur d'organisation, un facteur d'ordre de la société. Le travail est ce qui permet d'ordonner une société. Alors, ça ne veut pas dire qu'auparavant, dans le monde qu'on qualifie d'ancien, le travail n'avait pas là aussi une valeur sociale, hein, n'était pas une modalité pour organiser la société. Mais très bizarrement, et déjà là, il y a aussi un effort de décentrement qui peut être produit quand on se questionne là-dessus, très étrangement, dans le monde ancien, le travail intervenait comme valeur constitutive de la société, mais sur un mode négatif. Si on prend par exemple la pensée, le monde grec, hein, dont on fait, c'est une représentation évidemment, mais dont on fait un peu le berceau de la philosophie, le berceau de la politique, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement la question du travail intervient, mais elle intervient sur un mode que je qualifiais de négatif. Comment cela? Dans la mesure où on peut dire qu'il y a une certaine prééminence dans le monde ancien, une certaine prééminence de la vie contemplative sur la vie active. Ça, c'est la première chose, et c'est une question qui va habiter, cette opposition entre vie active et vie contemplative va habiter tout le monde ancien. On va sans cesse se questionner sur le fait de savoir qu'est-ce qui est le plus important, quelle est la valeur idéale. Et les valeurs idéales, elles sont données par la vie contemplative et non pas par la vie active. Pourquoi cela? Pour un motif philosophique très clair, on trouve chez Aristote, chez Platon, etc. Parce que tout simplement, la contemplation, hein, au sens large, c'est-à-dire l'exercice de la sagesse, hein, la philosophie, donc tout simplement, ou la prière dans le monde chrétien, se veut elle-même, est à elle-même sa propre fin, comme le diraient des philosophes. Hein, elle est son propre but à elle-même. Elle ne veut pas autre chose. Là où, au contraire, l'activité, le fait d'être actif, est toujours quelque chose qui se fait en vue d'autre chose. On est actif pour avoir quelque chose. On est actif pour avoir de la richesse, pour avoir de la puissance, pour avoir du loisir éventuellement. Mais quoi qu'il en soit, l'activité est typiquement quelque chose de, on pourrait dire, d'instrumental, est un moyen d'arriver à une fin. Là où au contraire, et c'est ce qui assure le caractère supérieur de la contemplation, de la sagesse, de la prière, etc., la contemplation se veut elle-même, elle ne veut pas quelque chose d'extérieur à elle-même. Donc, première surprise qu'on peut avoir quand on sort de notre monde moderne et qu'on se frotte non même pas aux sociétés primitives, mais à la société, au monde grec et à la représentation philosophique grecque, c'est cette prééminence de, non pas de l'oisiveté, mais de la contemplation par rapport à la vie active. Ensuite, deuxième déplacement qu'on va constater très vite, c'est qu'au sein de la vie active, là aussi il y a toute une série de hiérarchisations. Et qu'une nouvelle fois, ces hiérarchisations dans les types d'activités, hein, qui sont déjà dénigrées par rapport à la contemplation, ces hiérarchisations, elles se font toujours au détriment du monde du travail. L'image type qu'on a du monde grec, hein, et ce qui fait qu'on s'y intéresse, ce qui fait qu'on dit que c'est le berceau de la politique, c'est tout simplement parce qu'on a l'impression que dans ce monde grec, dans l'agora, comme on dit, se rencontrent des citoyens soucieux de la vie en commun, se référant les uns aux autres sur le mode de l'égalité, recherchant la liberté, etc., toutes les grandes valeurs que véhicule le discours philosophique. Or, comment se définit ce monde des citoyens égaux, etc., qui sont bien sûr des hommes, hein, qui sont, ce monde-là se définit entièrement par son opposition avec un autre monde, qui est le monde de l'oikos, comme on dit en grec, qui est le monde de la maisonnée. Oikos donne économique. Hein. Et le monde de la maisonnée, ça, c'est le monde dans lequel se trouve le travail. Ça, c'est le monde dans lequel se trouve l'activité. C'est le monde des femmes, des enfants, des esclaves, des travailleurs, du père de famille éventuellement, qui a un rapport hiérarchique avec les femmes, les enfants, les esclaves. Mais en tout cas, c'est dans ce monde-là qu'est reléguée la question du travail. Et la question importante, mise à part celle de la contemplation, celle de la sagesse, c'est la question politique, c'est-à-dire une question qui se définit en ce qu'elle n'est pas le monde du travail, en ce qu'elle est éloignée de cela. Donc voilà une première trajectoire qu'on peut suivre dans la philosophie grecque, qui ne signifie pas évidemment qu'il faut tirer de là une sorte d'idéal qui ferait du monde grec un monde habité par... Le loisir, par la contemplation, etc. Parce que, bien entendu, comme je l'ai dit, c'est une société qui présuppose l'esclavage. Donc, si la contemplation est possible, si l'activité politique libre est possible, c'est dans la mesure où on a relégué dans un autre monde le monde du travail, et en particulier en ce que celui-ci est produit par des esclaves. Mais c'est un monde qui a fait du contraire du travail son idéal. Alors, à quel moment sort-on de ce premier modèle, de ce modèle ancien, de ce modèle grec, qui perdure dans la pensée chrétienne, d'une certaine manière? On sort de là, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, fin 16e, début 17e, c'est-à-dire au moment où émerge ce qu'on appelle le capitalisme, et émerge l'État. Hein, de nouveau, on aurait tendance à croire que l'État, c'est une chose naturelle. Non, il n'y a pas toujours eu de l'État, il y a eu d'autres formes d'organisation sociale qui n'étaient pas l'État. L'État émerge avec une administration, avec un souci d'ordonner un territoire, etc., et émerge au XVIe siècle. Et qu'est-ce qui est essentiel pour qu'émerge l'État, et qu'est-ce qui est parfaitement concomitant donc à la naissance de l'État et à la naissance du capitalisme, c'est le fait d'élever le travail en tant que valeur fondamentale qui définit l'homme. Comment se passe ce tournant-là? Il se passe pour un motif qui finalement est relativement étranger au travail lui-même, qui est tout simplement que ce dont on va prendre conscience, c'est que l'intérêt, et donc le travail, est un facteur d'ordre essentiel. Comment faire en sorte qu'un peuple soit uni? Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas des dissensions, qu'il n'y ait pas du chaos, qu'il n'y ait pas des conflits sociaux, etc. En maintenant tout le monde intéressé, c'est-à-dire en veillant à ce que tout le monde travaille. Et c'est ce tournant-là qui est décrit par un théoricien politique italien, Giovanni Votero, à la fin du XVIe siècle, donc qui dit tout simplement l'intéressé qui est à tout. Ça veut dire quoi? L'intérêt rend tout le monde paisible. Et à partir de ce moment-là, l'État, l'administration étatique, avec tous les services qu'elle comprend, va faire en sorte de maintenir les gens au travail et va faire en sorte que l'entièreté de la société se pense à travers le travail, parce que le travail est un facteur d'ordre. Alors, je ne fais pas de nouveau ce détour-là en mettant côte à côte une pensée grecque qui fait de la contemplation son idéal ou éventuellement de la politique parce qu'elle est autre chose que le travail, son idéal, et face à cela l'idée que le travail naît comme une contrainte qui permet d'organiser la société au XVIe, XVIIe siècle. Je ne fais pas ce détour-là pour faire l'apologie d'un monde sans travail, mais simplement pour resituer le travail en ce que celui-ci est né dans un contexte politique et dans un contexte historique particulier. C'est une invention, si vous voulez. C'est quelque chose à partir duquel on va mettre de l'ordre dans la société. Et sur cette base-là, le travail va finalement s'inscrire dans un système de pensée extrêmement, extrêmement cohérent. Hein? On sait que la modernité, le XVIIe, le XVIIIe, est la période durant laquelle vont émerger les droits subjectifs, des droits libertés. D'expression, la liberté de penser, etc. Parmi ces droits fondamentaux, comme vous le savez, qui apparaissent et qui vont s'imposer durant les révolutions du XVIIIe siècle, il y a évidemment le droit de propriété. Or, qu'est-ce qui justifie la propriété? De nouveau, ce n'est pas quelque chose de naturel, le fait que mes objets m'appartiennent et un territoire ou un terrain m'appartiennent. Qu'est-ce qui justifie la propriété? C'est tout simplement le fait que, que les objets sur lesquels j'ai un droit exclusif, hein, c'est ça la propriété, sont des objets qui sont le fruit de mon travail. Et qu'est-ce que le travail? Il est vu à partir de ce moment-là comme étant une sorte de prolongement de ma subjectivité, un prolongement de l'individu. Donc si j'ai un droit exclusif sur certaines choses, un territoire, un terrain, des arbres, des objets, c'est dans la mesure où ceux-ci sont liés à moi par le travail. Et donc, à ce moment-là, le travail s'inscrit dans l'individu. Il est un prolongement de l'individu, tout simplement. Alors ça va évidemment être le cheval de bataille de toute la pensée libérale. Ce qui va rendre le travail encore plus incontournable et qui va faire vraiment en faire un horizon au point qu'on pense qu'il est naturel, en quelque sorte, c'est que les mouvements sociaux, les mouvements socialistes et marxistes qui vont dans les grandes luttes sociales du 19e et du 20e siècle se frotter à la théorie de la propriété privée, vont elles-mêmes s'organiser en fonction de la valeur du travail. Donc le face-à-face politique va être celui qui met d'une part, qui met aux prises d'une part des propriétaires, lesquels justifient et légitiment la propriété à partir du travail, puisque la propriété est ce qui m'appartient en ce que ça découle de mon travail. Pire encore, la propriété du capital, est la condition du travail, de l'investissement dans un outil qui permet de donner du travail. Donc le courant libéral, va-t-on dire, va justifier la propriété, va justifier les acquis au nom du travail. Et face à cela, les mouvements socialistes et communistes vont se frotter à ceci, vont s'opposer à ceci, mais en mettant en avant le fait qu'il y a face à cela des gens qui n'ont que leur force de travail à vendre. C'est-à-dire que le travail devient à ce moment-là véritablement l'horizon du questionnement politique. Le travail en ce qu'il légitime la propriété face à ceux qui n'ont pas de propriété et qui ne sont que des travailleurs. Et c'est devenu l'horizon naturel, en quelque sorte. Il n'est pas possible de se questionner sur la politique sans faire le détour par la question du travail. Pourtant, quand on regarde la société contemporaine maintenant, vraiment, quand on regarde notre monde, ce qui apparaît, c'est que le rapport que nous nouons au travail est un rapport extrêmement paradoxal. Et il me semble que ce qui est intéressant, c'est de définir deux paradoxes en les mettant face à face. D'une part, le travail, je crois, plus que jamais, est le facteur organisateur de la société. C'est-à-dire que c'est le marché du travail, ou le travail comme devenu l'objet d'un marché, qui assure l'organisation de la société. Toutefois, pour que ce marché fonctionne, il faut absolument, et pour qu'il fonctionne de manière adéquate, comme un marché avec une véritable concurrence, il faut, de la manière la plus nécessaire, qu'il y ait une armée de réserve de personnes qui n'ont pas accès au travail. C'est-à-dire que le travail est ce par quoi s'organise la société au travers d'un marché du travail, mais la condition du marché du travail en question est l'existence d'un non-travail. Hein ? Paradoxe propre à notre ultramodernité, ce qui ne veut pas dire de nouveau que les autres époques n'étaient pas habitées par d'autres paradoxes. Hein, comme je vous l'ai dit, le monde grec est habité par un idéal de contemplation, mais dont la condition réside dans le travail de l'esclave. Donc il y aura toujours comme ça un impensé qui organise la société. Mais je crois que vraiment que cette idée de l'armée de réserve est un des paradoxes centraux de notre époque contemporaine. Face à cela, j'aime bien mettre en avant le fait qu'il y a un autre paradoxe tout aussi constitutif de notre vie contemporaine, en ce que celle-ci se définirait par ce que j'appellerais un nouvel âge du capitalisme, au sens où il y a dans ce capitalisme, dans cette organisation capitaliste de la vie sociale qui est apparue, comme je l'ai dit tout à l'heure, au XVIe siècle, on peut dire qu'il y a eu un premier temps qui était celui d'un capitalisme du commerce. Hein, la figure même de l'entrepreneur était le commerçant. Ensuite, il y a eu ça c'était le XVIe, XVIIIe, on va dire. Ensuite, il y a eu au XVIIIe, XIXe, XXe siècle, un nouveau visage du capitalisme qui était le capitalisme industriel. L'industrie était le lieu central de la production de richesses, hein, et non plus le commerce. À la fin du XXe siècle, et certainement au temps présent, on est entré dans un nouvel âge du capitalisme que je définis comme étant le capitalisme, avec d'autres personnes évidemment, comme étant l'âge du capitalisme cognitif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui est le centre de la vie économique désormais, ce n'est plus l'activité commerciale, ce n'est plus l'activité industrielle de production de matériaux lourds, c'est les activités de connaissance. Les activités de connaissance sont devenues, et les échanges de connaissances et les partages de connaissances sont devenus l'espace ou le moment durant lequel la plus-value se produit, c'est-à-dire le plus de richesse se produit, ou une richesse excédentaire se produit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que ce sont des activités essentiellement gratuites, essentiellement, je ne veux pas les ramener à la contemplation grecque, hein, mais qui relèvent d'un partage de connaissances qui sont les moments où de leur richesse est désormais produite. On peut dire, si on voulait donner un exemple un peu concret, on peut dire qu'à notre époque, dans cet âge du capitalisme cognitif, le moment où de la plus-value est produite par excellence, c'est non plus dans l'espace-temps du travail salarié, hein, donc du salarié qui travaille dans une entreprise, c'est devenu au contraire un temps de loisir. Hein. C'est typiquement quand un employé de chez Microsoft et un employé de chez Google, par exemple, se rencontrent le soir pour boire un verre et partagent leurs connaissances. Ce moment-là, qui est un moment qui échappe absolument au temps du travail, est devenu le moment durant lequel le plus de richesses se produit. Alors voilà le double paradoxe face auquel on est. À la fois, nous sommes dans une société qui est organisée sur la base du travail et sur la base d'un marché du travail, mais qui, pour fonctionner comme marché du travail, réclame du non-travail, la fameuse armée de réserve. Et d'autre part, on est dans une société dans laquelle, quand le plus de richesse est produit, le plus de plus-value est produit, hors du travail, c'est-à-dire dans des moments de loisir. Alors ces deux arguments, évidemment, plaident extrêmement fort pour l'idée de parvenir à émanciper le revenu du travail. Par exemple, en assurant un revenu social, qui serait un revenu qui permet de financer non seulement l'armée de réserve, mais qui permet aussi bien de financer ces moments de coopération, ces moments d'amitié, en quelque sorte de partage gratuit, hein, qui sont ceux durant lesquels le plus de richesse est produite. Voilà donc toute une série de réflexions, et je vois bien que je deviens extrêmement bavard avec la question du travail, parce que véritablement, elle invite à faire de la philosophie pour le décentrement qu'elle produit par rapport à nos habitudes de pensée.